Europe 1. Écoutez le monde changer.
Bonjour, bonjour à tous. C'est Philippe Googler. Je suis très, très heureux de vous retrouver ici sur Europe 1. C'est l'été sur Europe 1. C'est l'été. Tous les jours, je vais vous proposer qu'on parte ensemble, qu'on parte très, très loin dans les plus beaux endroits du monde. Et chaque jour, un nouveau pays. Et puis qu'on parte aussi en France, parce que je peux vous dire que plus on voyage au bout du monde, plus on se rend compte que notre pays est une petite merveille. Donc que vous soyez sur la plage ou au travail, tous les jours, pendant 2 heures, on va ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres. Nous allons lâcher prise, rêver. C'est parti.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Alors, pour cette toute première émission sur Europe 1, 2 morceaux de choix, 2 super destinations. C'est celle que je pourrais vous conseiller les yeux fermés si vous rêviez d'un beau voyage. Tout à l'heure, en 2e heure, un pays incroyable dont on parle très peu et qui pourtant est gigantesque. D'est en ouest, il est plus grand que les États-Unis. Il compte plus de 13 000 îles, peut-être 18 000, personne ne sait vraiment. Des jungles inextricables, des villes tentaculaires, des lézards géants, des îles pour faire la fête, d'autres pour jouer à Robinson Crusoe. Et tout est possible là-bas. Je vous emmènerai en Indonésie. Et en première heure, maintenant, sur Europe 1, une région dont le seul nom donne l'eau à la bouche. Le seul nom qui vous donne une petite envie de week-end tranquille, là tout de suite, partir visiter les châteaux en amoureux, il y en aurait plus de 1500, faire du canoë sur des rivières magnifiques au milieu de sites préhistoriques. Cette région, c'est le Périgord, j'adore prononcer Périgord, c'est déjà du plaisir. Et pour partir à l'aventure, c'est toujours mieux avec des amis, je vous les présente tout de suite. On va passer tout l'été ensemble, ne vous inquiétez pas, ils sont de bonne compagnie. C'est le genre avec lequel on peut partir en vacances. Nathalie Elal, auteure, grande voyageuse, exploratrice, dénicheuse d'infos et d'histoires croustillantes sur nos belles régions. Bonjour Nathalie.
Bonjour, bonjour à tous.
Ça vous fait saliver le Périgord ?
Ah oui, je pense tout de suite aux fraises du Périgord. Vous savez, elles sont réputées, elles sont protégées par une indication géographique protégée. Il y a là-bas une confrérie de la fraise, un marché de la fraise. Et si elles sont si bonnes, c'est grâce au sol du Périgord qui est particulièrement riche en humus.
Bon.
J'ai très envie de fraises d'un seul coup.
Vous me faites peur. On développera tout à l'heure, c'est intéressant. Olivier Pouls, chroniqueur gastronomique culte sur Europe 1. Le Périgord, vous êtes comme un poisson dans l'eau, là, c'est fastoche pour vous.
Bah oui, bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Bah, Kurnonski disait, vous savez, Kurnonski, le prince des gastronomes, il disait « Vanter la cuisine périgourdine, c'est presque un pléonasme
ouais, ».
Autant
voilà.
Vous dire qu'on va avoir le ventre bien rebondi à la fin de l'émission.
Très bien, ça me va. Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors vous êtes le roi des bons plans, des trucs géniaux pour faire des super voyages. Comment vous réagissez quand on vous dit Périgord ?
Périgord, j'ai envie de prendre de la hauteur. On ira se balader en montgolfière, figurez-vous.
Très bien, ça c'est le meilleur moyen de voir le Périgord, c'est magnifique. Nous serons en ligne également sur Europe 1 avec un amoureux du Périgord. C'est un de nos chefs étoilés préférés. C'est le genre grande gueule mais bon fond. Cauchemar en cuisine, top chef, je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Le Périgord et son havre de paix, Philippe Etchebest sera avec nous dans un instant.
16h, 18h, et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait sur Europe 1, nous allons voyager ensemble tout l'été de 16h à 18h. Au bout du monde, tout à l'heure, à partir de 17h, dans les îles d'Indonésie et dans les plus beaux coins de notre pays magnifique, la France, tout de suite, avec aujourd'hui une région qui fait rêver les papilles, le Périgord. En ligne avec nous, un fou du Périgord, il possède une maison là-bas près de Bergerac, c'est un peu notre Cyrano, mais sans le nez. Il est l'ami de nos papilles, Philippe Etchebest, chef étoilé, meilleur ouvrier de France à la tête du restaurant étoilé La Table d'Hôte du 4e mur, situé au cœur du Grand Théâtre de Bordeaux. Bonjour Philippe Etchebest.
Bonjour.
On va vous mettre une petite musiquette bien connue qui devrait vous dire quelque chose. Parce que j'ai lu que là-bas, dans votre maison du Périgord, vous jouiez les Charlingals. Vous savez, le père de famille, le voilà, le père de famille de la petite maison dans la prairie. J'ai lu que, texto, hein, que vous étiez en salopette, en tracteur et à cheval. Qu'est-ce que vous faites en tracteur ?
C'est vrai. C'est vrai. Bon, en tracteur, y a plein de choses. Il y a le foin à ramener aux chevaux, il y a... Le tracteur me sert aussi à élaguer un peu de temps en temps, à charger des pierres. Enfin, c'est vrai que je bricole beaucoup là-bas. On a une ferme, en fait, on a des animaux.
Vous avez des animaux ?
Oui, on a des chevaux, des poules, un canard.
Ouais.
Et on s'en occupe, donc forcément, tous les week-ends, on est là-bas. Et comme vous l'avez dit, c'est vrai que c'est un havre de paix. On se repose, on se ressource. C'est cool.
Mais alors, pour moi, maison de campagne dans le Périgord, ça veut dire frigo vide quand on revient, herbe folle parce qu'on ne s'est pas occupé du gazon. Qu'est-ce qu'il y a dans votre frigo à vous quand vous rentrez ?
Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo ? Alors, c'est très simple. C'est mon épouse qui arrive le vendredi soir en règle générale. Donc, elle va chez Isabelle à Pont-Saint-Mamet. Il y a une épicerie qui travaille énormément de produits locaux avec des petits producteurs locaux. Elle va faire les courses et puis voilà, on remplit le frigo au moins pour les deux jours avant de repartir à Bordeaux et on le vide avant de partir de toute façon.
Oui, puis s'il n'y a pas de produits frais, j'ai comme dans l'idée que là-bas, il y a des conserves aussi. Hein. Il y a un certain nombre de produits du Périgord qui peuvent se conserver, voire se bonifier en conserve.
Oui, ça se garde
puis
bien.
Il y a toujours les poules et le canard, au cas où.
Oui, alors c'est surtout les poules. C'est vrai qu'on a des œufs extraordinaires. Je me régale toujours de faire des bons desserts, des îles flottantes, des crèmes caramel, voire même des belles omelettes ou des œufs sur le plat, tout simplement, avec un peu de jambon. C'est un vrai régal. Donc on a cette chance-là. Et c'est vrai qu'on l'a vu pendant le confinement aussi, c'est qu'on était relativement autonome. Et c'est un petit peu l'avantage qu'on a dans ces régions. Et tout autour de moi, les gens qui y vivent, mes voisins, ils sont complètement indépendants. On peut vivre de culture, d'animaux, de poules, de choses comme ça. Ah, mais complètement.
Alors,
c'est vachement bien. C'est très appréciable.
Le Périgord, comment ça a commencé votre histoire d'amour avec cette région ? On m'a dit que c'était là-bas que vous aviez eu votre première étoile, c'est vrai ?
En fait, c'est ma première place de chef directeur. C'était au château des Rénas, c'était en 2001.
Ouais.
C'est là où on a découvert la région, effectivement. Et puis, on y est resté 2 ans et demi. Franchement, on a aimé cette période avant de repartir à Saint-Émilion. Et quand on est revenu à Saint-Émilion, on s'est dit, tiens, ce serait bien pour les week-ends qu'on puisse trouver un truc là-bas. C'était pas loin déjà de Saint-Émilion, c'était à 1 heure. On avait un cahier des charges un peu compliqué. Il fallait pas que ce soit trop loin parce que le temps manque parfois pour partir en week-end. Et surtout, on voulait de la place parce que mon épouse envisageait d'avoir des chevaux peut-être un jour. Peut-être, vous voyez, on avait prévu ça. Et il se trouve que la Dordogne était le lieu, la région idéale pour nous, pour pouvoir envisager ça. C'est ce qui s'est passé.
Et vous avez eu votre première étoile Michelin à Chancelade ?
Oui, à Chancelade, 6-7 mois après notre arrivée, 8 mois après notre arrivée au château des Rénas, j'ai eu ma première étoile là-bas, donc c'était un beau souvenir.
Pas mal. Mais est-ce que, je vous pique un peu, mais est-ce que c'est pas fastoche pour un chef, est-ce qu'on réussit plus facilement dans le Périgord ? Parce qu'il n'y a que des bons produits là-bas, c'est facile, non ?
Alors c'est vrai que c'est une chance énorme d'avoir un réservoir de produits comme dans le Périgord. Moi je me régalais d'aller au marché tous les matins, au marché de Périgueux, qui est un marché extraordinaire. Et je me nourrissais et je m'inspirais de tous les produits que je pouvais trouver pendant les saisons, parce que c'est extrêmement important. Mais en fait, il y a vraiment de quoi faire de jolies choses avec tout ce qu'on pouvait trouver autour du restaurant.
Qu'est-ce que le Périgord a apporté à votre cuisine ?
Qu'est-ce qui m'a apporté Il m'a apporté déjà de beaux produits. Après, moi, ces produits, j'essaie de les bonifier au mieux que je peux.
Avec par exemple, quel produit
On va commencer par le foie gras. Alors, le foie gras, c'est un produit qu'on axe toujours le foie gras à travers la terrine de foie gras ou le pot. Enfin, ça, moi, c'est un truc je ne fais pas. Je ne le fais pas parce que je considère que tout le monde en a chez soi. Mais par contre, le foie gras est un produit avec lequel on peut faire des multitudes de recettes. Vraiment. Et il s'accommode autant avec les fruits qu'avec les fruits de mer, qu'avec les herbes. Ça peut être très végétal. Et moi, je me suis régalé de travailler le foie gras à travers vraiment différentes recettes, diverses et variées, pour le faire découvrir d'une autre manière et autrement qu'à travers la terrine.
Olivier ?
Oui, Philippe, le Périgord, en fait, est plus une terre de cuisine paysanne et de produits finalement que de grands chefs. Alors il y a eu évidemment quelques grands chefs, mais ça a été moins marqué que comme dans la cuisine lyonnaise, qui là est vraiment une cuisine de chef, d'auteur. La cuisine périgordine, c'est une cuisine paysanne en fait.
Oui, mais elle peut, c'est pas...
C'est pas péjoratif,
c'est
ce pas, que je dis.
C'est pas incompatible. Oui, non, mais du tout, et c'est pas incompatible. Hein. La cuisine de terroir, elle peut être extrêmement raffinée, si on en, c'est l'interprétation qu'on en donne finalement et comment on la bonifie. Il y a eu, je pense à Roland Mazer en Dordogne, aux Hésitaillac, qui a eu 2 étoiles pendant des années, qui est un chef excellent, qui a mis en avant la Dordogne et la culture gastronomique de la Dordogne. Mais vraiment, après, il faut savoir que la Dordogne est une région qui est quand même assez pauvre aussi. Donc il y a un pouvoir d'achat qui est pas très élevé, ce qui peut expliquer que comparé à Lyon, il y a peut-être plus de grandes tables qu'il n'y en a eu en Dordogne. Je pense que c'est lié peut-être aussi à ça, mais franchement, la cuisine de terroir de Dordogne n'est pas incompatible avec une cuisine de haute voltige gastronomique. Hein.
Philippe Etchebest, on continue à parler de cette belle région du Périgord avec vous dans un instant, en direct sur Europe 1, avec peut-être un aspect un peu plus rock'n'roll de votre personnalité que je ne connaissais pas. A tout de suite.
Europe 1. Et si on partait, Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1 en direct, tous les jours pendant 2 heures, on voyage ensemble dans les plus belles régions de France et autour du monde. Hein, tout à l'heure, à partir de 17h, nous irons de l'autre côté de la Terre, dans les îles magiques d'Indonésie. Mais pour l'instant, on est dans une des régions les plus gourmandes de France, le Périgord, avec un des hommes les plus gourmands de France, Philippe Etchebest, jury chez Top Chef, à la tête de Cauchemar en cuisine, de son resto étoilé, la table d'hôte du 4e mur, et puis surtout amoureux du Périgord. Quand on parle du Périgord, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs ensemble là tout de suite, spontanément sur les produits du Périgord, mais on parle moins des périgourdins. Qu'est-ce que vous appréciez chez eux, Philippe ?
On a été super bien reçus par les périgourdins quand nous sommes arrivés au château des Rénas. Je me rappelle à l'époque, c'était Xavier Darcos qui était le maire de Périgueux. Et il nous a vraiment reçus à bras ouverts et il nous a fait connaître un peu le microcosme périgourdin qui était vraiment extrêmement extrêmement sympathique. Enfin voilà, nous on a trouvé des gens à la fois chaleureux, conviviaux, très ouverts,
et moi,
très
j'ai l'impression
avenants
que ce sont
et surtout des,
ce sont des gens
amateurs
qui,
de bonne chair.
Et ce sont des gens qui aiment leur terre, les périgourdins.
Ah oui, ils sont ancrés dans leur terre et ils peuvent être fiers de leur terre aussi parce que là la région elle est extraordinaire de par sa diversité, de par les produits, de par plein de choses, de l'agriculture et non vraiment il y a c'est très varié hein, la Dordogne.
Est-ce qu'il y a un accent périgourdin?
Je sais pas.
Je pas sais pas.
Alors, j'ai jamais fait gaffe. En plus, non, mais c'est l'accent du sud-ouest, je pense, c'est le même, hein. J'imagine.
Si on veut se replonger dans le Périgord et si on veut s'imaginer un peu ce que c'est avec un petit peu de nostalgie, je vous engage à revoir un film extraordinaire qui s'appelle Le Tatoué. Film avec Louis de Funès et Jean Gabin. Avec ce périple de ces deux hommes, l'un bourru et l'autre citadin dans le Périgord. Ça vous donne faim, ça vous donne envie d'y aller. Ces paysages, ces châteaux, cette nature sauvage, c'est extraordinaire. Ouais. C'est un film à revoir.
Jean-Bernard ?
Je voudrais ajouter quand même que le Périgord, c'est la région préférée, pas simplement de Français ou de Philippe Etchebest, c'est la région préférée des Anglo-Saxons. Ils raffolent de cette région-là.
Ils sont très nombreux. Et c'est souvent ceux qui en parlent le mieux, d'ailleurs.
Exactement. Les meilleurs ambassadeurs.
Il y a beaucoup d'Anglais là-bas. Alors, j'ai un truc à vous...
D'ailleurs, la ferme qu'on a rachetée, elle appartenait à deux Anglais qui avaient 80-85 ans. Ils ont vécu pendant 25 ans, presque 30 ans dans cette maison. Ça appartenait aussi à des Anglais. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et c'est vrai qu'ils ont apporté quelque chose de, une espèce d'âme supplémentaire en Dordogne. Déjà en refaisant tout un tas de maisons qui tombaient en ruine. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites comme ça. Des petits villages aussi qui ont été refaits vraiment avec beaucoup de goût. Et ils ont apporté pas mal. Les Anglais, c'est vrai, dans la région.
Alors j'ai un truc à vous faire écouter, Philippe. Un truc qu'on connaît moins de vous, mais selon mes infos, les informateurs, auxquels vous vous entraîneriez secrètement dans votre maison du Périgord. Écoutez bien.
Allons-nous ?
Qu'est-ce que c'est que ce truc, Philippe Etchebest ?
On est sorti de la batterie de cuisine. Non, c'est mon groupe, c'est un groupe de potes et je joue de la batterie. Moi, j'adore ça. Je me suis donné à fond depuis plusieurs années justement à cet instrument. Et puis c'est parti d'un délire en tournage avec des cadreurs, des ingé-sons, avec un producteur. Je dis tiens, pourquoi pas monter un groupe comme ça pour s'amuser. Et puis de fil en aiguille, on a fait des concerts devant le restaurant. Puis ça a vachement pris. Le dernier en date, pas cette année malheureusement, mais la dernière, il y avait 7000 personnes sur la place de la Comédie. C'était magnifique. Et puis on joue du rock, voilà, sans se prendre la tête. On a un espèce de collectif, on est plusieurs. Et puis de temps en temps, ça tourne au niveau des guitaristes, des chanteurs.
Mais Philippe, voilà, expliquez-moi un truc comme ça. Comment est-ce que vous faites entre la télé, vous avez deux émissions, les restaurants, etc. En plus, vous montez un groupe.
Trois émissions, pardon.
Excusez-moi. Mais en plus, vous montez un groupe de rock. Mais comment vous faites? Vous tournez à quoi?
Je travaille tout le temps. Alors c'est vrai que moi je rentre généralement le samedi matin ou le vendredi soir après le service en Dordogne. Et le samedi matin quand j'arrive, je fais à peu près 3-4 heures de batterie. Le dimanche matin pareil, je fais à peu près 3 heures de batterie. Je m'entraîne et voilà. Et puis je me régale de faire ça. Mais ça passe toujours par du travail. Hein. Il n'y a pas de secret non plus. Hein. Tout ce que je fais, c'est parce que j'ai envie de le faire. Ouais. Je me lance des défis aussi. Mais à chaque fois, ça demande beaucoup d'efforts. Mais ça me plaît. J'aime ça.
Philippe, il nous reste une minute pour conclure. Vous allez sortir là. Comment vous êtes en train de sortir du confinement, j'imagine, dans votre restaurant, comme beaucoup de restaurateurs. Comment ça se passe?
Alors, écoutez, ça se passe. Alors, on a la brasserie, hein, on a la brasserie du Grand Théâtre, le quatrième mur, et en cuisine, j'ai la table d'hôte qui est étoilée. Donc, il y a deux entités différentes dans l'endroit. Mais il se trouve que, écoutez, ça marche plutôt bien. C'est vrai qu'avec la distanciation sociale au début juin, c'était compliqué parce que j'avais perdu à peu près 35 places. Bon, là, avec le beau temps et la terrasse, on peut compenser un petit peu tout ça. Il n'en reste pas moins que la conjoncture, elle reste difficile pour un grand nombre de restaurateurs. Il faut pas l'oublier. C'est vrai que on en parle beaucoup moins aujourd'hui. Les vacances arrivent, le confinement est terminé. Donc, les gens reviennent à une activité, on va dire, quasi normale. Donc, on oublie aujourd'hui qu'il y a encore énormément de restaurateurs qui sont en très grande difficulté et qui tournent à peu près entre 30% voire même 20% de leur chiffre d'affaires seulement. Donc, faut pas les oublier. Et j'espère, en tout cas, au niveau du gouvernement, je passe un petit message, mais qu'ils vont savoir réagir et puis entendre un petit peu tout ce qu'on leur a demandé pendant ce confinement. Mais ça reste difficile pour beaucoup.
Ouais. Ben, je vous souhaite bon courage, bonne reprise, Philippe. Bon courage à tous les restaurateurs.
Merci.
Et en conclusion, allez au restaurant pendant l'été pour les soutenir. Merci beaucoup, Philippe.
On a besoin de vous. Merci.
Bon séjour, Périgord. Vous êtes sur Europe 1 dans Et si on partait? 2 heures de voyage tous les jours en direct. 2 heures en France, dans les plus beaux endroits de la planète également, en deuxième heure. Dans un instant, toutes les pépites du Périgord, les incontournables et les plus secrètes. À tout de suite.
Europe 1, Philippe Googler.
Et si on partait 2 heures d'évasion en France, au bout du monde, sur Europe 1, nous sommes dans le Périgord, qui est une région vraiment incroyable du côté du patrimoine. Le patrimoine dans le Périgord, c'est immense. Là-bas, les châteaux se comptent en milliers. Visiter le Périgord, ça peut prendre toute une vie. Et alors, ce que j'aime beaucoup aussi dans cette région, c'est qu'on voyage dans l'espace, pour aller voir les châteaux, mais aussi dans le temps. Car même si on recule de millions d'années, il se passe quelque chose dans le Périgord. La région était déjà très prisée du temps de Cro-Magnon. Nathalie Elal, vous êtes auteure, grande voyageuse. Qu'est-ce que vous nous avez déniché dans cette région magique?
Ben, l'histoire d'une grande découverte, comme on aimerait en faire quasiment tous les jours, on peut dire.
Ouais.
Nous sommes en 1868, au Zézy de Taillac, dans la vallée de la Vézère, qui est une des rivières locales.
Très belle,
et là, il y a des ouvriers armés de pioches qui sont en train de percer le futur emplacement du chemin de fer sur les terres d'un certain monsieur Magnon, qui est un paysan du coin. Il découvre un trou. Or, comment dit-on le trou en patois? Je vous le donne en mille, Philippe. Loup-croc. Et à l'intérieur de ce trou, eh bien, il y a les restes fossiles intacts d'un squelette d'Homo sapiens. L'homme de Cro-Magnon...
Attendez, vous êtes en train de nous dire que Cro-Magnon, ça veut dire le trou de monsieur Magnon?
Absolument. L'homme de Cro-Magnon vient de naître pour la seconde fois à environ 27 000 petites années d'intervalle.
Mais si ça avait été chez vous, ça aurait été le Cro-Googler.
Oui.
Je ne sais pas quoi il aurait ressemblé d'ailleurs. Hein.
Mais c'est dingue. C'est énorme comme info.
C'est énorme.
D'accord. Pour Lascaux, vous en avez une aussi bonne?
Je sais pas, mais enfin, elle est pas mal quand même, je crois. Alors, nous sommes cette fois-ci le 12 septembre 1940, donc toujours sur les bords de la Vézère, à Montignac. Il y a quatre enfants, dont deux enfants juifs, qui sont cachés dans la région sous un faux nom. Et ils ont perdu leur chien. Il y a eu un éboulement de terrain, il a beaucoup plu. Évidemment, ils cherchent ce chien désespérément avec un éclairage de fortune. Et là, ils descendent dans la terre et ils découvrent sur les parois de la galerie où ils se sont introduits une extraordinaire fresque de peinture polychrome. C'est la salle dite des taureaux, la plus belle de la grotte, qui a été baptisée ensuite par un abbé passionné d'archéologie, la chapelle Sixtine de Périgordien.
Et ils ont retrouvé leur chien ?
L'histoire ne le dit pas, je pense que oui quand même, on le saurait. Hein.
Ah oui, c'est fou, c'est des histoires, on ne sait pas tout ça.
On ne sait pas tout ça.
Et alors, Lascaux, j'imagine que la Lascaux d'origine, celle-là, elle n'est plus visitable aujourd'hui.
Non, malheureusement, parce que le site a été définitivement fermé en 1963. Il y avait beaucoup trop de visiteurs. Et puis, il y avait une étrange moisissure verte qui menaçait d'endommager les peintures rupestres. Et le dernier homme à y avoir pénétré, en dehors, bien entendu, de l'équipe de scientifiques qui travaille en permanence, c'est Nicolas Sarkozy, quand il était à la tête de l'État. Mais je vous rassure, il y a quand même des répliques, Lascaux 2, 3 et 4, avec des colorants incroyables, des prouesses technologiques, des peintures rupestres. Enfin, c'est fantastique à voir.
Moi, j'étais un peu sur la réserve, je suis allé voir et franchement, c'est très, très bien fichu.
C'est convaincant.
Oui,
hein.
Très convaincant. Il y a une atmosphère, les dimensions sont respectées, il y a une obscurité, presque une humidité et c'est très agréable à visiter alors que c'est une reconstitution, mais on l'oublie très vite. Non, c'est chouette.
Ouais, c'est bien.
Vous l'avez vu, vous, Jean-Bernard ?
Je l'ai vu, mais contrairement à vous, Philippe, j'étais un petit peu déçu. Je préfère les sites qui sont restés dans leur jus, mais effectivement, c'est quand même normal qu'ils soient protégés.
Ça, c'est parce que vous êtes un peu snob.
Non, je suis authentique.
Il est rustique,
j'assume.
Oui, bien sûr.
Dans le Périgord, vous avez repéré deux, trois histoires plus récentes.
Oui, absolument. Le Périgord, vous le savez, est traversé par de nombreuses rivières. Donc, je vous ai emmené remonter le cours du temps. Là, on va aller un petit peu au fil de l'eau. Je vous embarque sur la Dordogne, ouais, qui a fait vivre du XVIIIe siècle jusqu'aux années 20 des centaines de familles d'une corporation qui est aujourd'hui disparue, qu'on appelait les Gabarriers. Alors, les Gabarriers, c'était les propriétaires des gabars. Qu'est-ce que c'était les gabars ? Des embarcations à fond plat, en bois de bouleau, plutôt fragiles, hein, pas du tout faites pour durer, parce que souvent, à l'arrivée, elles étaient brûlées comme bois de chauffage. Mais c'était des bazars flottants qui transportaient toutes sortes de marchandises locales. Par exemple, le bois destiné à fabriquer des barriques pour les vins, des châtaignes, des balles de papier, du charbon, des fromages, des pots pour les tanneries. Évidemment, il y a eu un déclin, malheureusement, des gabars à partir de 1887 à cause de l'arrivée du chemin de fer. Et la musique que vous entendez, c'est celle d'une série télé de 1994, réalisé par José Dayan, qui s'appelait La rivière Espérance.
C'est génial. Et vous remarquerez que, quelle que soit l'époque, il y a un truc à raconter sur le Périgord, tout le temps.
C'est
L'histoire
magnifique.
Est fabuleuse dans cette région. Ils vivaient comment, ces gabariers ?
Oh, j'ai une petite anecdote qui est chère à mon cœur, assez insolite. Figurez-vous qu'ils étaient plutôt pas trop mal nourris, en tout cas. Matin et soir, de saumon qui était pêché dans les eaux de la rivière. Bien sûr,
oui,
la Dordogne regorgeait de saumon à l'époque. Ils ont entamé une grève. Ils ont exigé que les maîtres gabariers leur fournissent 3 jours par semaine du poisson blanc et de la viande. Ils n'en pouvaient plus du saumon. C'est un comble quand on sait qu'aujourd'hui la région se bat pour réintroduire justement ce saumon dans ses rivières.
C'était une grève anti-saumon.
Ah, anti-saumon. Du poisson blanc et de la viande, ça passait. Le saumon, on n'en voulait plus.
Mais il y a une anecdote du même genre. La truffe, et on va en parler dans un instant, qui était extrêmement abondante il y a un siècle en Périgord, on dit que c'était les pommes de terre des pauvres. C'est-à-dire qu'il y en avait tellement, tellement, que les gens qui n'avaient pas les moyens de s'acheter de la pomme de terre mangeaient des truffes.
Donner aux cochons à une époque aussi.
Ah, oui. Alors, il nous reste une petite minute. Vous avez un petit personnage célèbre à nous servir.
Oui, le diable boiteux, Talleyrand, Charles Maurice de Talleyrand-Périgord. Autant vous dire qu'il ne boitait pas que des deux jambes, enfin plutôt d'une, mais il y avait celle du milieu qui fonctionnait très très bien, si vous voyez ce que je veux dire.
Dedans.
Oui, oui, je suis un peu laisse de temps en temps.
Alors, au début de l'émission, vous avez envie de fraises.
Il y a des messages similaires.
Alors,
c'est engagé.
Ce
là.
Talleyrand qui sautait allègrement dans tous les ministères et dans tous les lits, il faut bien le dire, pour marquer son attention. attachement à sa région, qui n'était pas sa région natale, hein, il était né à Paris. En 1790, quand il s'occupe du découpage administratif de la France, eh bien, il s'arrange pour conserver les limites de cette province qu'il baptise la Dordogne.
Très bien. Merci Nathalie, j'adore vos petites infos. Oui.
Talleyrand qui avait un chef cuisinier remarquable, puisqu'il s'appelait Antonin Carême, qui était l'un des plus grands chefs de l'histoire de la cuisine et de l'histoire tout court.
Merci Nathalie, merci Olivier, vous êtes sur Europe 1. Tous les soirs, nous voyageons entre 16h à 18h. Tout à l'heure, nous voguerons entre Bali et Jakarta en Indonésie. Et tout de suite, dans le Périgord, et ce qu'il y a de bien dans cette région, c'est que c'est difficile d'y avoir faim. Rien que le nom Périgord, vous avez les babines qui se trémoussent. Il n'y a pas beaucoup de régions qui font ça. Le nom lui seul est nourrissant. On retrouve Olivier Pouls dans un instant comme un poisson dans l'eau.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1, si on partait pas n'importe où, toutes les après-midi cet été, nous irons là où notre planète est la plus surprenante, la plus belle. Et en France, dans notre super pays, on a ouvert donc pour cette première émission avec le Périgord, Olivier. Cette région qui fait saliver rien qu'en prononçant son nom.
Oui.
Pourquoi d'abord ? Pourquoi ça fait saliver tout de suite le Périgord ?
Il y a quand même un catalogue incroyable de plats, de produits. Rien que quand on prononce Périgord, tenez autour de la table, ça vous évoque quoi ?
Moi, ça m'évoque les truffes.
Voilà, la truffe, bien sûr. On a parlé tout à l'heure, Nathalie.
La fraise, la noix aussi.
Voilà, la noix. On a parlé du canard, on a parlé du foie gras, parce qu'il y a une authenticité culinaire, une histoire de produits dans ce Périgord qui est absolument incroyable. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de Talleyrand, et c'est vrai que Talleyrand, originaire du Périgord, a beaucoup fait aussi pour la gastronomie du Périgord. C'était un homme d'État qui voyait beaucoup de monde, ministre des Affaires étrangères. Il avait un chef absolument remarquable, Antonin Carême, on l'a dit, et il a donc fait la promotion de cette cuisine du Périgord et de ses produits qu'il aimait servir aux gens qu'il recevait. Et donc, forcément, voilà, il y a eu cet engouement. Et puis, il y a des produits qui se sont magnifiés parce que il y a un savoir-faire unique dans cette région. Et il y en a deux dont je vais vous parler
le
particulièrement.
Foie
c'est le foie gras, évidemment. Ouais. Alors, l'histoire du foie gras...
ça commence comment ? Parce qu'il faut y penser. C'est une technique un peu spéciale, quand même.
Alors, l'histoire du foie gras, elle ne démarre pas du tout dans le Périgord. Elle démarre il y a plusieurs milliers d'années en Égypte.
Ah, oui.
Ce sont les Égyptiens qui, les premiers, ont utilisé des techniques d'engraissement des oies à l'époque.
Uniquement les oies ou on a essayé sur d'autres animaux ?
Au départ, c'était plutôt l'oie. Le canard est venu un petit peu plus tard.
Ouais.
Et c'est vrai qu'ils se sont rendus compte que ça donnait une chair meilleure, un foie plus intéressant. Et petit à petit, avec les conquêtes romaines, ces techniques de gavage et donc l'engouement pour le foie gras s'est développé, puis ça a disparu. Parce que le Moyen-Âge, on avait autre chose à faire, franchement, que de gaver des oies et des canards. Et c'est quelque chose qui revient autour du XVIIIe siècle, notamment dans le Périgord, et grâce au croisement de deux canards, de deux variétés de canards, qui sont le canard pékinois et le canard de Barbarie. Et on obtient le mulard. Et c'est vrai que c'est un canard qui est particulièrement goûteux et qui se prête particulièrement aux techniques de gavage. Et puis, il y a une révolution, c'est l'arrivée du maïs. On ne connaît pas le maïs, puisqu'il arrive avec évidemment les conquêtes, il nous vient d'Amérique. Mmh. Et le maïs est évidemment une nourriture idéale pour le gavage des canards et des oies, et ça change la donne. Et puis il y a une troisième révolution qui est très importante, 19e siècle, l'arrivée de la conserve, l'apertisation. Ça permet au foie gras de voyager, ce qu'il ne pouvait pas faire avant.
Ah, oui.
Et donc, ce petit foie gras qu'on mangeait dans le Périgord et qu'on connaissait essentiellement sur place, qu'on ne pouvait pas exporter, eh bien, il part à la conquête du monde. On le retrouve sur les tables parisiennes, mais on les retrouve sur les tables de toutes les grandes capitales du monde. Et là, c'est un succès total.
Ouais. Et alors, on boit quoi avec ce petit foie gras ?
On peut boire des vins locaux, évidemment. Pourquoi pas les vins de Montbazillac, plein d'autres choses. Moi, je ne suis pas un fou, je vais vous dire, des vins sucrés avec le foie gras.
Oui, parce que moi, je trouve que c'est lourd, ça fait sucre sur un peu lourd.
Voilà, on a déjà du gras et on rajoute du sucre. Alors, on peut aimer, il n'y a pas de problème, Nathalie, on vous acceptera
Nathalie
à table quand même.
Nathalie est férocement contre.
Moi, je vais à genoux dans le Périgord pour du Montbazillac avec un foie gras.
Non, mais il n'y a pas de mal. Mais essayez aussi certains vins rouges avec le foie gras, ça marche bien aussi.
Ouais.
Puis tout dépend aussi de la manière dont vous l'accommodez, le foie gras. Si vous le servez en conserve, des conserves qu'on peut faire maturer d'ailleurs, il faut savoir que le foie gras, quand vous faites vos conserves de foie gras ou quand vous les achetez, vous pouvez les garder 2, 3, 4 ans, voire au-delà. C'est un peu comme les conserves de sardines, ça se bonifie avec le temps.
Ah oui,
à condition qu'il y ait... On ne parle pas de foie gras mi-cru, hein. On parle vraiment de foie gras qui sont en terrine, donc qui sont apertisés Et donc, forcément...
Même si la boîte de conserve gonfle un peu.
Ah non, non, non. Alors, si elle commence à gonfler et que ça sent mauvais, là, vous laissez tomber. Mais non, si mais vous la stockez bien...
Petit mais en Suède, je connais, ils mangent des harengs, oui. Ils les mettent dans des boîtes de conserve, et quand la boîte est prête à exploser, c'est qu'il est bon.
Ouais, ben ça, je leur laisse.
Fermenter, ouais. C'est très fermenté.
Je voudrais juste rendre hommage à une célèbre cuisinière du Périgord que tous les Périgordins connaissent bien, qui s'appelait Lamazille, qui a laissé un recueil de recettes mythiques, on peut dire, n'est-ce pas,
oui,
Olivier?
C'est un peu l'équivalent de la mère brasier.
Exactement,
par exemple,
ils ont leur mère brasier,
ouais.
C'est Lamazille.
Ouais. Est-ce qu'Olivier nous a ramené justement un peu de quoi déguster ou pas là?
Bah écoutez, j'étais prêt à le faire, et puis je sais pas, j'ai dû l'oublier.
Il n'y a pas une petite conserve
cachée.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va pas du tout.
Comment on choisit son foie gras? Parce qu'il y a quand même à boire et à manger. Hein.
Alors oui, il faut. Il y a aujourd'hui une indication géographique protégée parce que le foie gras du Périgord, il est unique, mais il est très copié, et notamment dans les pays de l'Est où aujourd'hui on a des techniques de gavage qui n'ont strictement rien à voir avec les techniques périgourdines, où on engraisse les canards dans des conditions pas toujours franchement ragoûtantes. Mmh. On les fait prendre du volume très vite, et il faut savoir que souvent ces canards d'ailleurs ont été transportés vers le Périgord. On les abattait dans le Périgord et on disait bah tiens, c'est du foie gras du Périgord. Alors aujourd'hui, il y a une indication géographique protégée qui protège effectivement un savoir-faire, une provenance. Donc on achète du foie gras de canard IGP. Alors soit on l'achète frais, et dans ce cas, il faut qu'il soit bien ferme, jolie couleur, pas de tache. Quand vous pressez le pouce dessus, il faut que ça revienne en état. Puis là, vous en faites des tranches poêlées ou au barbecue, par exemple, en ce moment. Et sinon, des boîtes de jolis producteurs.
Merci beaucoup, Olivier. C'est super. Maintenant, on a faim. Alors que ma maman m'a toujours dit qu'il fallait jamais manger entre 17 et 19. On continue notre périple entre Périgord noir, Périgord blanc, vert, pourpre. Le Périgord, c'est tout un monde. Dans un instant, juste avant de partir en Indonésie après 17h, à tout de suite.
Europe 1, Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1, le nouveau rendez-vous de l'été, 2h entre 16h et 18h pour s'évader, pour ouvrir les portes, les fenêtres et tout oublier, et puis se laisser porter là où on en est bien. Jean-Bernard, le Périgord, c'est tellement beau. Je pense que pour y aller cet été, il va falloir réserver assez tôt.
Un petit chiffre pour illustrer tout ça, Philippe. Plus 210% de demandes de réservation sur une célèbre plateforme de réservation d'hébergement en ligne pour le Périgord au mois de juin. Je l'ai dit, il y aura du monde cet été du côté de la Dordogne.
Ah, c'est tellement beau. C'est un régal. Et moi, ce que j'adore dans cette région, c'est la lumière. Cette lumière douce, orangée.
Crémeuse, je l'appelle crémeuse.
Crémeuse. Voilà. C'est le mot. Voilà. Par quelle étape on commence?
Par une étape justement visuelle qui ira alimenter notre gourmandise visuelle, photogénique. C'est la roque Gajac. J'ai craqué pour ce village. C'est un vrai coup de cœur. Imaginez le cadre. Une grande falaise, un village qui s'étend au pied de cette falaise. Et puis, la particularité des maisons au toit d'os qui sont encastrées à moitié dans cette falaise. On appelle ça des maisons semi-troglodytiques. Et devant, la célèbre rivière Dordogne qui sinue paisiblement. C'est vraiment le paysage typique du Périgord. Alors, la roque Gajac, je conseille d'attendre que tous les touristes soient partis en fin d'après-midi. Vous avez ensuite tous les monuments qui sont éclairés, illuminés, et ça donne une ambiance résolument magique.
C'est vrai que la Dordogne, au lever du soleil et au coucher, c'est sublime. Alors, il y a la Dordogne qui passe devant la roque Gajac. Est-ce qu'on peut y arriver autrement que par la route?
Justement, moi, j'ai pas résisté à la tentation d'une balade au fil de l'eau. Nathalie a parlé des gabarres. On peut faire une balade en gabarre avec un guide qui vous... C'est un petit peu le gondolier local, hein, Olivier. Olivier, ça l'intéresse, mais c'est une histoire de gondole qui se balade un petit peu. Il chante pas. Mais en revanche, il vous fait un petit commentaire sur l'histoire et puis la faune et la flore.
Il donne pas à bouffer non plus.
Il donne pas à bouffer non plus. Voilà. Alors, moi, je préfère suggérer, parce que je l'ai fait, je trouve ça beaucoup plus authentique, une sortie en canoë, parce que le canoë vous donnera une approche un peu plus ludique, un peu plus en osmose avec cette nature. Puis surtout, vous pourrez vous arrêter à peu près où vous voulez, avec votre fameuse provision de foie gras et tous les pique-niques que vous voulez.
Toujours emporter ça.
Toujours emporter ça dans sa musette. On s'arrête à peu près où on veut, sur les berges de la Dordogne, et on se fait un pique-nique, un vrai régal.
Ça, c'est super. Moi, j'ai eu la chance une fois de voir ce village depuis une montgolfière. C'était sur un tournage de Faut pas rêver. Et le gars de la montgolfière était super bon. Il arrivait à suivre le cours d'eau au ras du cours d'eau, à 50 cm du cours d'eau. Donc vous aviez la rivière comme ça, la fraîcheur de la rivière qui venait vous rafraîchir, et puis la vue sur le village. C'est magnifique. Si vous faites un tour en montgolfière, choisissez bien votre pilote.
Beaucoup de sensualité dans ce que vous dites par rapport à cette approche périgourdienne, Philippe. Mais c'est une région de sensualité, justement.
On peut visiter côté culture, côté musée, il y a des choses intéressantes et pas barbantes.
Alors, il y a justement les Ezis de Taillac. On en a parlé avec Nathalie. Alors, je trouve ça beaucoup plus intéressant que Lascaux parce qu'il y a un petit peu moins de monde. Et puis surtout, il y a un site qui est magique à côté des Ezis, c'est la grotte de Font de Gaume. Et là, on peut vraiment admirer les authentiques peinture rupestre, c'est pas des reconstitutions comme à Lascaux, on est vraiment dans un boyau, dans des galeries, et c'est une galerie d'art préhistorique qui a 17 000 ans. Alors c'était des vrais Picasso à l'époque, ces gens-là, ouais. Ces fameux Cro-Magnon. Quand on voit la stylisation des bisons, des rennes et des mammouths, franchement, ils avaient énormément de talent. J'ai passé une bonne heure à l'intérieur de ce boyau, de cette galerie, je suis ressorti complètement tourneboulé, j'ai trouvé ça extrêmement touchant de voir à quel point ces gens-là avaient du talent.
Vous êtes sonné, ça se voit.
Je suis sonné, complètement.
Et d'ailleurs, vous savez que dans les grottes, ils allaient peindre, mais ils ne vivaient pas au fond de la grotte.
Non, hein. C'était les animaux ensuite qui ont occupé ces grottes.
Voilà. Tout à fait. Les châteaux.
Comment les châteaux ?
Parce qu'il y en a plus de 1500.
Bon, on ne va pas les énumérer, évidemment. Moi, j'aime beaucoup le château de Benac et Cazenac, qui est un château du XIIe siècle. Je vais vous dire pourquoi. On a parlé de la montgolfière tout à l'heure, parce que justement, dans ce coin-là, dans le coin de Benac et Cazenac, on peut faire une balade en montgolfière. Et là, vous avez ce paysage, toute la Dordogne vallonnée à vos pieds. Et vous voyez les châteaux d'en haut. Et effectivement, les aérostiers, qui sont de très très bons techniciens, ouais. On monte, on descend, et on a ce panoramique sur ces châteaux de contes de fées avec un angle complètement spectaculaire. Ça, c'est vraiment une expérience à pas manquer pour à peu près. Alors, il faut y mettre un peu le prix, c'est entre 100 et 150 euros quand même, mais ça vaut vraiment le coup.
Ce qui est magique avec la montgolfière, j'ai eu la chance d'en faire, c'est le silence, hormis ce qu'on entend là, le oui. brûleur qui s'allume de temps à autre, ouais. C'est le silence absolu, c'est-à-dire qu'on vole sans bruit, c'est extraordinaire.
Et puis, on a aussi toutes les odeurs du fleuve, de la, ouais. de la rivière Dordogne qui ouais. remonte.
Ça sent le saumon ?
Non, ça sent pas le saumon, ça sent l'arbre en fait, voilà, la chlorophylle.
Et on amène aussi son casse-croûte dans la montgolfière
complètement,
d'ailleurs.
Pour un pique-nique dans les airs.
Absolument, et d'ailleurs, il y a des aérostiers qui vous font un truc très rigolo, c'est que pour sentir l'arbre, ils grattent le fond du panier, ils visent juste pour passer au sommet des noyers. Donc ils secouent un peu le noyer délicatement du haut de l'arbre avec le fond du panier de la montgolfière et ils font tomber des noix.
Ça c'est un petit peu de la voltige quand même, Philippe.
Non mais c'est vrai,
se méfier, hein.
Je l'ai vécu, c'était super. Il nous reste 30 secondes, Jean-Bernard, un petit bonus.
Allez, un petit coin secret comme je les aime bien, vous verrez tout cet été, je vous en donnerai plein. Eh ben, c'est les gorges de l'Auvézère. C'est pas très connu, c'est dans l'est du département de la Dordogne. C'est une vallée complètement bucolique, il y a des petits sentiers et c'est là que justement on peut s'immerger. C'est tout petit, hein, il y a une petite heure de balade, donc c'est pas très compliqué, mais surtout il y a des vasques, des petites piscines naturelles dans cette Auvézère. On s'arrête. Pareil, encore un pique-nique, Olivier, à ne pas oublier.
On prend son maillot, là.
On prend son maillot, voilà. C'est pas pour du naturisme. Et on va se baigner dans cette eau fraîche, rafraîchissante, en plein cœur de l'été. Notez bien les gorges de l'Auvézère.
Merci, Jean-Bernard. J'ai l'impression que vous aimez le Périgord.
J'en suis passionné. J'ai hâte d'y retourner, d'ailleurs.
Merci, Jean-Bernard. Merci beaucoup, les amis. Je vous propose de rester ensemble, parce qu'après le flash, nous allons partir encore plus loin, partir très très loin dans un pays infiniment grand, plus étendu que les États-Unis, un pays où toutes les aventures sont possibles, dans la jungle, dans des îles paradisiaques, sur des volcans actifs, dans des villes tentaculaires. Je vous emmène pour un fabuleux voyage en Indonésie, avec bien sûr toute la bande de joyeux voyageurs qui est autour de moi, mais aussi avec une star en Indonésie et en France, Anggun.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et si on partait, deuxième heure, c'est l'été, vous le savez, c'est le moment de lâcher prise. Tous les après-midi sur Europe 1, je vais vous emmener au bout du monde. Sur Europe, c'est le déconfinement total, aucune contrainte, juste le plaisir de rêver, de s'évader. Décollage maintenant.
16h, 18h, et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Aujourd'hui, pour cette première, j'ai envie de vous emmener dans un pays que je trouve incroyable. On en parle très peu, c'est un pays que je trouve on sous-estime et qui pourtant est gigantesque. D'est en ouest, il est plus grand que les États-Unis. Il est constitué de 13 000 îles et peut-être plus, il pourrait bien y en avoir 18 000, on ne sait pas. On n'a jamais fait le compte total. C'est le plus grand archipel du monde, c'est le quatrième pays le plus peuplé de la planète. Ça vous dit quelque chose ? Ce pays, c'est l'Indonésie. Et l'Indonésie, c'est un voyage immense. Vous imaginez 13 000 îles, une vie entière ne suffirait pas à découvrir tout ça. Alors la première fois que je suis allé en Indonésie, je suis arrivé à Sumatra lors d'une escale en train et j'ai assisté à un spectacle incroyable. Une compète de surfeurs, mais de surfeurs qui surfent sur l'eau des rizières tiré par des bœufs. Alors, faut imaginer la scène. Vous êtes dans un décor sublime de rizières en terrasse avec des montagnes douces. Le riz, il faut savoir que c'est vert. Donc, c'est des milliers de petits brins verts, presque fluo, qui poussent dans l'eau, le tout inondé de lumière. Donc, on est au milieu de tout ça et il y a une parcelle qui devait être labourée après la récolte. Donc, il n'y a plus de riz, mais il y a encore de l'eau. Et on ne va pas labourer classiquement avec des bœufs et une charrue. On va en faire un événement. Alors, on fait venir des bœufs, jeunes, bien vigoureux, vifs, un peu comme l'Andaise. On fait venir des jeunes gaillards du coin les plus musclés. Et c'est un véritable événement majeur. On vient de toute la région. Il y a une foule tout autour de la parcelle. Beaucoup de monde. Alors, il y a du désordre, il n'y a pas de barrière. Il y a du public qui est autour de la rizière. Il y en a qui descendent dans l'eau. Les bœufs sont au milieu du public. C'est un grand bazar. Et au lieu d'attacher une charrue derrière les bœufs, on va donc attacher une planche. Une planche qui va servir de surf. Alors, je me mêle à la foule. Mon idée, c'est de me rapprocher des bœufs pour voir le départ. Mais tout le monde fait ça, donc c'est la foire d'empoigne. Les gens sont très excités, les propriétaires des bœufs essayent de contenir leurs animaux, mais les animaux sont de plus en plus énervés, ils n'ont qu'une envie, c'est de sortir et de foncer dans le tas. Donc j'essaie de m'approcher petit à petit, et petite anecdote, comme il y a de l'eau, ben, j'ai le réflexe d'enlever mes chaussures, bien gentiment. Je descends dans l'eau avec mes pieds nus, c'est chaud, c'est pas désagréable, c'est un peu gluant dans le fond, ça colle. Et j'essaie d'avancer vers les bœufs, je suis tout prêt, mais tout à coup, il y en a un qui fait une grande embardée. Alors là, mouvement de foule. Et surtout, les sabots d'un bœuf de 500 kilos, énervé, qui passe à 3 cm de mes pieds. Donc là, je comprends mon erreur, je cours, je colle au fond de la rivière, et je finis à plat ventre dans l'eau. Voilà, ça c'est mon premier contact avec Sumatra. Je suis trempé, il fait chaud, mais bon, c'est pas grave. J'ai les pieds sains et saufs. Donc je prends un peu de recul et tout à coup, deux bœufs fendent la foule à toute vitesse sans prévenir. Et c'est la compète qui a commencé. Je vois donc un surfeur agrippé à la queue des deux bœufs qui fait tout pour essayer de se maintenir sur la planche. Ça a l'air très difficile. Et ce qui est le plus dur, c'est de maintenir les deux bœufs parallèles. C'est un effort visiblement surhumain. Ça se voit aux grimaces que fait le surfeur. Et pour faire avancer les bœufs plus vite, qu'est-ce qu'il fait? Il mord avec ses dents le haut de la queue des animaux. Le spectacle est complètement fou. Tellement physique que les surfeurs, en fait, ne tiennent pas plus de 15 secondes. Ils font pas une course, ils cherchent à s'enfuir. Et n'importe comment. Donc, ça relève plus du rodéo que de la course. C'est un peu du surf-rodéo. C'est à la fois un exploit incroyable de la part des surfeurs et du grand n'importe quoi. Il faut être un vrai casse-cou pour faire ça. Et c'est ça, l'Indonésie. C'est l'incroyable, le fou, le surréaliste qui surgit tout à coup au milieu de nulle part.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Et c'est comme ça, on va partir très très loin toutes les après-midi sur Europe 1. Ce soir donc l'Indonésie, un pays immense, vous l'avez compris, extravagant jusqu'à 18h, avec bien sûr toute la petite bande de grands voyageurs prêts à nous donner les bons tuyaux pour partir à l'assaut des pays même les plus improbables. Ça, ce sera le boulot de Jean Bernard.
Ouais, j'ai les clés d'un petit paradis exotique.
C'est vrai. On ira manger aussi et on découvrira le terrible nazi-goringue, le plat national, Olivier Pouls.
Oui, j'en salive déjà, figurez-vous.
Moi j'ai un avis partagé, mais on en parlera. Nathalie Elal, elle a bien sûr quelques infos explosives, comme toujours.
Oui, moi je vous emmène danser sur le volcan.
Très bien. Et surtout, qui de mieux que celle qui a commencé par être une star de la chanson et de la télévision, en Indonésie, qui est arrivée en France à 21 ans et qui à nouveau rencontre un succès énorme avec, entre autres, sa chanson « La neige au Sahara ». Dans un instant, sur Europe 1, nous recevrons Angoût.
16h, 18h, et si on partait ? Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1 ? Nous sommes très très loin en Indonésie, jusqu'à 18h. Angoon, je suis très très heureux de vous recevoir.
Ravi d'être là.
Bonsoir.
Bonsoir.
C'est vous qu'on entend la chanter en indonésien.
Exactement.
Et je suis content de vous voir parce que déjà je suis fan et ensuite parce que...
Oh merci.
C'est vrai.
Vous avez bon goût.
Et puis aussi parce que j'adore votre pays qui est pour moi vraiment une des plus belles destinations de la planète. Alors Angoune, oui. On resitue les choses, vous êtes une star de la chanson, de la télé en Indonésie, en France aussi, vous êtes arrivé à 21 ans. Vous avez rapidement rencontré un très gros succès dans notre pays. Vous êtes naturalisée française.
Tout à fait.
Et vous retournez régulièrement dans votre pays, incroyable. Et notamment à Bali, où vous avez une maison là-bas, c'est ça ?
Oui, oui, nous avons une maison familiale. Et puis donc, puisqu'en fait, je suis la seule de ma famille qui est partie loin. Donc tous mes frères et sœurs, ma mère est encore là-bas. Ma famille là-bas. Ouais. Donc voilà, puisque j'ai un enfant de 12 ans et tous les ans, voilà, on va se retrouver à Bali avec mes frères, avec toutes. Enfin voilà, nous sommes quinzaine.
Alors vous êtes né à Jakarta. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Bali ? Parce que quand on parle de l'Indonésie, tout le monde parle toujours de Bali, alors qu'il y a entre 13 et 18 000 îles.
C'est vrai.
Pourquoi Bali ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ?
Ce qui est spécial, c'est parce qu'en fait, je suis javanaise, donc mes deux parents sont issus du centre de Java. Ouais. Ma mère a le sang noble un peu, elle est issue d'une famille royale, et mon père était roturier.
Donc vous êtes mi-princesse, mi-roturière.
Je n'ai pas de titre. Ma mère a un titre, mais lorsqu'elle a épousé mon père, donc ses enfants, leurs enfants n'auront plus de titre.
Dommage.
Vous savez, mon père était écrivain et il était, en fait, il croyait pas vraiment à l'aristocratie. Voilà. Donc il trouvait que c'est quelque chose qui ne servait à rien.
Parlez-moi de Bali. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est l'île bénie des dieux ? Qu'est-ce qu'elle a de spécial ?
Ce qui est de spécial, Bali a toujours été très très à part. Le reste, vous savez, l'Indonésie est le pays le plus, un des pays où il y a le plus de musulmans du monde. L'islam, la religion est... en fait, on reconnaît 5 religions, mais les musulmans, là-bas, c'est peut-être 90% de la population.
Et pas à Bali, justement.
Et pas à Bali, puisque c'est une île hindoue.
Ouais.
Et donc, voilà, c'est pour ça que moi, je préfère Bali, parce qu'il règne là une ambiance qui est autre que le reste de l'Indonésie.
Vous pouvez me décrire cette ambiance ?
Alors, déjà, je ne sais pas si je parle de ça en France, puisque vous savez, lorsqu'on arrive dans un endroit où il y a beaucoup de gens qui croient, il y a une espèce d'énergie dont on ressent, qui est assez palpable pour moi.
Une spiritualité.
Une spiritualité qui est tellement là que tout n'a pas le même... Les odeurs sont amplifiées, l'air qu'on respire est très différent. Je ne sais pas. Il y a quelque chose de très doux, de très douce et apaisante.
Ouais. Il y a une douceur, c'est tout à fait très difficile à expliquer à Bali, je suis d'accord avec vous.
Oui.
Et est-ce que, même dans la relation entre les gens, moi j'ai remarqué qu'on avait du mal à se dire non, par exemple. Il y a pas de, non, c'est brutal là-bas.
Ben, on ne nous a jamais appris à dire non. Ça fait pas partie de mon éducation, par exemple, parce qu'en fait le non, la négation, ça peut blesser. Donc en fait, c'est ce qui peut. Lorsque je suis arrivée en France, il a fallu que je me rééduque.
Ah bon?
En regardant comme, en plus en France, les Français disent non,
oui,
souvent.
On dit peut-être plus que oui même d'ailleurs, hein, Olivier.
Oui, c'est d'abord faire, non. Alors donc,
mais
voilà.
Comment vous faites quand vous voulez pas quelque chose, si vous savez pas dire non?
On dit peut-être, on dit. En fait, on devient beaucoup plus créatif. Il faut que je réfléchisse.
Ah oui, mais en fait, vous mentez un peu.
Pas du tout.
C'est très politique, en fait.
Oui, c'est très politique, oui.
Ah, j'adore.
Oui, donc en fait, on gagne du temps. Ouais. C'est ça.
Merci, Angoune. Vous restez avec nous sur Europe 1. On voyage jusqu'à 18h en Indonésie. Chaque soir, comme ça, sur Europe, on va découvrir un nouveau pays. Et dans une minute, on passera par un endroit qui, en général, est plutôt ignoré des touristes, mais qui pourtant a un caractère énorme. C'est votre ville de naissance. Jakarta.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait très très loin, comme toutes les après-midi sur Europe, entre 16h et 18h désormais, pendant tout l'été, aujourd'hui une destination immense, 13 000, 18 000 îles, on ne sait pas très bien. Ce pays est une aventure en soi. Nous sommes avec Angoune. Et là, tout de suite, la capitale, Jakarta. Alors quand on décide d'aller en Indonésie, on choisit souvent de passer par Bali, parce qu'il y a un grand aéroport, mais on peut aussi passer par Jakarta, la capitale. Bah, si vous avez le temps, moi je vous conseille plutôt de passer par Jakarta, parce que Jakarta en soi, c'est un monument. C'est un monstre même, c'est bouillonnant, c'est tentaculaire. La métropole fait pas loin de 30 millions d'habitants. C'est la deuxième métropole la plus peuplée du monde. Et il y a tout, c'est une ville de contrastes phénoménaux. Il y a des quartiers ultra-modernes avec des buildings étincelants de toutes les formes. Il y a des parcs magnifiques, c'est le troisième plus gros aéroport d'Asie. Il y a des kilomètres d'autoroute et puis tout à coup, vous pouvez basculer dans des ruelles défoncées qui desservent des quartiers plus déshérités et des bidonvilles plutôt tristes, il faut le dire. Et puis alors encore d'autres endroits, au contraire, qui ont un petit air de village, comme Kota Tua, qui est la vieille ville. Et c'est une place qui a un petit air de Hollande d'autrefois, avec des palais à l'architecture hollandaise, des bâtiments blancs à colonnes, on circule à vélo. Mais bon, il ne reste pas grand-chose de l'époque coloniale hollandaise. Mais ce qui frappe immédiatement à Jakarta, ce qui est spectaculaire, devinez quoi, ce sont les embouteillages. Des embouteillages absolument infinis, interminables. À Jakarta, quand vous voulez vous déplacer pour aller quelque part, c'est souvent 2 heures. 2 heures, aller simple, comme ça, tout le monde le sait, on fait avec. À Jakarta, on parle même du jour terrible où arrivera le masset. Le masset, c'est l'étape ultime de l'embouteillage, c'est-à-dire le blocage total et absolu du trafic. C'est fini, plus rien ne peut bouger, toutes les voitures sont bloquées. Certains l'avaient déjà annoncé pour 2014, mais visiblement, il y a encore un peu de répit. Mais bon, pour l'avoir vécu là-bas, je peux vous dire que les 2 heures pour aller à n'importe quel rendez-vous, ça fait beaucoup réfléchir avant de bouger et ça change un peu la façon de vivre. Et là encore, on ne râle pas, on garde le sourire en Indonésie. Dans ces embouteillages dingues, on reste tranquille. C'est l'embouteillage relax avec très très peu de klaxons.
Europe 1, Philippe Googler.
Avec Angoun sur Europe 1 en Indonésie, comment vous faites dans cette ville infernale et monstrueuse en même temps?
Il faut maîtriser la patience, oui. Ça, c'est, en fait, finalement, vous parlez du trafic, on est champion du monde. On a battu Calcutta, on a battu Bangkok. Et ce qui fait qu'en fait, dans les voitures, il y a du Wi-Fi. Donc, on fait installer. Donc, et puis, finalement, en fait, il y a beaucoup de réunions qui se font dans les voitures.
Ah oui, donc c'est bureau dans la voiture. Nathalie,
exactement.
Est-ce que c'est dangereux d'être un piéton à Jakarta?
Ah, exactement. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Je reste toujours dans un hôtel qui est dans le plus grand rond-point à Jakarta. Et un jour, j'ai un rendez-vous, un déjeuner dans un hôtel, sur un hôtel en face, mais vraiment, l'hôtel en face. Et avec une voiture, en fait, avec la voiture, ça va me prendre 45 minutes. Donc, je me disais qu'on va aller
juste
à
pour
pied.
Faire le rond-point.
Oui, juste pour faire le rond-point. Je descends, on m'arrête dans la rue. En fait, parce qu'il y a les bodyguards, il y a la sécurité. Ils me disent non, il ne faut pas, c'est trop dangereux. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de passage piéton, il n'y a pas de piéton, il n'y a pas de trottoir. Les trottoirs sont tout petits et c'est très, très difficile. Et en plus de ça, il n'y a pas de zebra cross, il n'y a pas.
De passage clouté.
On va l'envoyer à l'Hidalgo, hein, on va voir ce que c'est.
Ah non, s'il vous plaît, je voulais...
Cela dit, c'est un joli challenge. Hein.
C'est ah bah pas oui, alors là, franchement, elle a beaucoup de travail.
Et alors, donc, comment vous avez fait pour traverser ce rond-point alors du coup?
On a pris la voiture.
Et vous avez mis 45 minutes.
On a pris, voilà, 45 minutes. Donc après ce déjeuner, j'ai un dîner. Je suis en retard, figurez-vous, pour le dîner. Ça m'a pris 3h30 pour aller à 5 km.
Ouais, c'est infernal.
C'est n'importe quoi.
Je comprends pourquoi vous êtes allé vivre à Bali, où c'est beaucoup plus calme, même si ça circule pas mal aussi.
Ça
quand
circule
même.
Pas mal, surtout en été, parce qu'en fait, les rues sont tout petites. Ils ne sont pas du tout été pensées pour recevoir autant de voitures et des cars. Et maintenant, voilà, avec les touristes.
Juste un petit mot. Ce que j'aime beaucoup dans ce pays, dans l'Indonésie, c'est les contrastes. Donc là, on est dans une ville bouillonnante, moderne, dans certains quartiers vraiment rutilants, d'autres moins. Et puis, on peut passer dans des îles reculées en Indonésie où c'est un autre monde. Parlez-moi des Toraja, par exemple. C'est une île dans les célèbres
ouais.
qui, eux, ont des traditions incroyables. Ils réveillent leurs morts, c'est ça ?
Oui, après, voilà, c'est la légende. Moi, je suis allée visiter, j'ai eu la chance de visiter lorsque j'avais 14 ans. Et cette ville de Toraja a une particularité, c'est qu'il y a une falaise. Et sur cette façade de la falaise, on voit là des effigies des morts. En fait, à chaque membre de famille qui est décédé, on leur fait une effigie, puis donc on le met devant. Et ce qu'il fait,
on m'a dit. Pourquoi on dit qu'on réveille les morts alors ?
On réveille parce qu'en fait, on les enterre pas. On les met dans la grotte, enfin, à l'intérieur de cette falaise, où il y a donc il y a une espèce de
c'est un hôtel, c'est ça ?
Oui,
un hôtel.
C'est ça. En fait, il y a des endroits qui sont assez étrange et on ne sait pas comment on peut amener un corps là-bas. Alors la légende dit que au pied de cette falaise-là, avec des prêtres, avec des imams, on les réveille et puis ce sont les morts qui choisissent l'endroit où ils veulent dormir. Et voilà.
c'est un peu étrange.
Oui, mais je trouve ça. C'est parce qu'en fait, on n'a pas du tout la même relation avec la mort en Indonésie. Donc, et ça prouve encore une fois que c'est quelque chose où il y a une continuation.
Ce n'est pas vraiment. De la vie.
Voilà, c'est le contraire de la naissance.
Alors, l'Indonésie, on le sent bien, c'est un voyage fabuleux. Moi, c'est vraiment, je vous le dis, je vous la répète, une de mes destinations préférées. 13 000 îles et à chaque fois une aventure complètement différente. On va aller dans un instant dans une région très reculée. Dans un instant, je vous emmène sur l'île de Bornéo, dans les profondeurs de la forêt où vit Shani, ce Français qui est devenu... Ouais, vous le connaissez ?
Ah oui, je l'aime beaucoup.
Ce Français qui est devenu indonésien et qui a fait de la protection des gibbons le combat de sa vie. On l'appelle là-bas dans un instant.
Europe 1, Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1, toutes les après-midi, nous larguons les amarres, on déconfine à 100% vers les destinations les plus spectaculaires. Nous sommes en Indonésie avec Angoon. Et Angoon, il y a un sujet dont on n'a pas encore beaucoup parlé,
oui. C'est
de la forêt.
Ah oui.
Très important la forêt en Indonésie.
Exactement, c'est le poumon de la terre quand même.
C'est le poumon de la terre. Et le pays est recouvert par là, je crois, la troisième plus grande forêt tropicale au monde. À ce jour, est encore un trésor, un joyau. Moi, j'aime bien écouter le son de la forêt.
La forêt, finalement, n'est pas du tout silencieuse.
Pas du tout.
Oui, bien au contraire.
Et je trouve que c'est un son qui fait rêver, le son de la forêt. C'est dès qu'on écoute ça, on est très, très loin.
Moi, c'est surtout les odeurs que... j'adore les odeurs de chlorophylle, les odeurs de la terre aussi. Après la pluie, vous savez, il y a toutes ces odeurs, ces arômes qui remontent. C'est magnifique.
Ça fait flipper un peu quand même.
Mais non, arrêtez.
Il doit y avoir des grosses bestioles quand même, non?
Alors, on entend les animaux, mais on les voit pas en fait. C'est ça,
la menace. Oui, c'est ça la menace.
Alors, je vous propose de retrouver à Bornéo, dans la partie indonésienne de l'île de Bornéo, Shani, qui est un Français qui a réalisé son rêve d'enfance. Il est allé protéger les gibbons là-bas afin de les protéger des ravages de la déforestation, parce que c'est vrai que la moitié de la forêt a disparu entre 1960 et 2015. Shani, vous le connaissez, Angoon ?
Oui, non mais c'est quelqu'un qui est incroyable. Il fait des choses absolument magnifiques pour l'Indonésie.
Bonjour Shani.
Bonjour Angoon.
Salut.
Salut, apa kabar?
Baik, apa kabar?
Vous laissez entre vous.
Ah, j'en ai l'air content, il y a quelque chose de spécial entre vous?
Non, mais moi, en plus, mais vraiment, Shani, c'est quelqu'un que j'admire. Et en plus, on a pris rendez-vous pour aller, pour que moi, j'aille la visiter à Bornéo,
hein.
Au milieu avec parce qu'en fait, il vit avec la tribu de Dayak.
Oui, alors les Dayak, justement, Shani, il paraît que c'est des coupeurs de tête. Vous pouvez me raconter ça?
Ben oui, les Dayak, d'abord, il y a plein d'ethnies Dayak, il y a plus de 300 ethnies Dayak surtout au Bornéo, mais ils ont ce point commun qu'effectivement, dans le temps, c'était des coupeurs de tête, notamment pour faire en sorte que quelqu'un qui est mort de mort naturelle, pour que cette personne atteigne le paradis, une des conditions était de tuer un inconnu sur une autre rivière et d'enterrer la tête de cette personne sous l'ossuaire où était déposée la personne qui était morte de mort naturelle.
Ah, sympa.
Donc oui, effectivement.
Ah, sympa. Et alors moi, ce qui m'épate, c'est que je crois que vous avez choisi la femme de votre vie parmi les coupeurs de tête.
Oui, mon épouse est d'Ayac. Alors, oui. On planque toutes les machettes à la maison, mais sinon, ça va.
Vous dormez bien la nuit, ça va ?
Ça se passe comment, en fait, au réveil, chez vous ? S'il se réveille, oui, c'est ça.
Vérifie qu'on a toujours la tête.
Elle est coléreuse. Voilà.
Non, ça va, j'ai de la chance. Je fais tout pour ne pas la mettre en colère.
Alors, vous vivez au cœur de la forêt de Bornéo, oui, depuis très longtemps. Là, on plaisante bien sûr sur les daïaks. Je pense qu'aujourd'hui, ils coupent moins de têtes.
Pas du tout.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils vous ont appris, les daïaks, dans cette forêt, dans le rapport à la nature, au danger ? Comment on fait pour être heureux dans une nature sauvage comme ça ?
Ah ben d'abord, pour moi, je suis heureux parce que c'est ce que j'aime avant tout. Mais les daïaks, ils n'arrêtent pas de m'apprendre énormément de choses, que ça soit sur les animaux, que ça soit sur la forêt. Moi, j'ai rien à leur apprendre dans une démarche de protection de l'environnement. C'est tout l'inverse. Cette relation de vivre tout simplement en harmonie, de prendre les ressources dont on a besoin, pas plus, et de respecter l'environnement où on se trouve. C'est comme ça que les daïaks ont vécu depuis la nuit des temps. Les temps changent et c'est pour ça que ce sont les populations locales qui sont mes premiers alliés pour essayer de protéger la forêt, sauver les animaux. Il ne faut pas du tout penser que tout ça est fait contre les populations. Au contraire, on arrive à toutes ces victoires sur le terrain grâce au soutien de ces gens-là qui ont... Ce sont les premiers à comprendre l'importance pour garder leur qualité de vie, par exemple, de garder une forêt saine derrière leur maison pour avoir une bonne qualité de l'eau, etc. Donc, c'est la clé, en fait, et c'est leur vie et c'est leur futur.
Alors, vous faites quelque chose de tout à fait incroyable, c'est que vous achetez la forêt petit à petit pour la protéger. Ça paraît fou ?
Mais en fait, ça vient simplement du raisonnement. Comment font les compagnies forestières, les compagnies d'Île de Palme pour déforester ? Ils s'appuient sur quoi ? Ils sont obligés d'acheter les terrains pour déforester. Donc moi, l'idée est venue de faire exactement la même chose. La différence, c'est que je le fais en partenariat avec les populations locales qui nous soutiennent et qui protègent les terres ensuite. Donc oui, on achète les terrains à des propriétaires terriens privés, mais pour laisser la forêt debout. Et les gens ont toujours accès à la forêt pour aller faire leurs activités traditionnelles, comme la cueillette des fruits, le rotin, etc. Donc non seulement on sauve les animaux, mais en plus, les gens ont toujours accès à cette forêt qui est protégé grâce à cette méthode très simple qui est l'achat.
Chani, juste en un mot, comment est-ce qu'on peut aider votre association ?
Simplement visiter le site de l'association qui s'appelle Kalawet, donc Kalawet, K-A-L-A-W-U-I-T, .org, et puis voilà, vous pourrez nous aider pour sauver des animaux et acheter et sécuriser
acheter
de la
forêt.
Acheter un bout de forêt, tout simplement.
Ah, exactement, et vous pouvez acheter un bout de forêt.
Merci beaucoup, Chani. On va continuer notre voyage en Indonésie jusqu'à 18h.
Merci, Chani.
Merci. Jusqu'à 18h sur Europe 1, nous irons encore plus loin dans ce pays d'une dimension et d'une profondeur insondable. Mais cette fois, côté saveur, qu'est-ce qu'on mange dans un pays aussi varié ? Moi, je suis un petit peu partagé, je ne vous cache pas, Olivier.
Pourquoi
Non, mais on mange bien, vous allez voir.
On mange discuter. Carrément trop bien, on arrêtez.
On va débattre, on va débattre.
Europe 1. Et si on partait ? Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1 toutes les après-midi, un grand voyage dans les endroits les plus fous de la planète ? Alors, l'Indonésie, on l'a bien compris, c'est l'aventure, la découverte, les émotions. Mais alors, qu'est-ce qu'on mange ? Moi, je ne vous cache pas, vous pourriez être allé plusieurs fois. J'ai un petit blocage, Olivier. Vous allez peut-être m'aider, me débloquer. Je bloque sur le nasi goreng. Alors, au début, c'est...
Nasi goreng.
Pardon, nasi goreng,
pardon,
s'il vous plaît.
Angoune, pardon, Angoune.
Faut rouler le R, exactement.
Nasi goreng.
Nasi goreng.
Parce qu'au début, c'est pas mauvais. C'est du riz frit avec de l'huile, des épices, des poulets, des crevettes, des œufs. Au début, c'est
tout
bon.
Tout ce que vous pouvez trouver dans votre
tout ce qui traîne dans le frigo.
Exactement.
Sauf que du nasi goreng le matin,
bravo.
Du nasi goreng le midi et du nasi goreng le soir, tous les jours, au bout de 3 jours, vous n'en pouvez plus.
Non, c'est parce qu'en fait, nous, le matin, le petit déjeuner, on peut manger ce qu'on veut. C'est pas vraiment...
Il y a du nasi goreng.
Oui, on peut manger aussi du poulet rôti le matin, comme on peut manger de la viande hyper épicée. Enfin, voilà.
Mais l'Indonésie, on en parlait tout à l'heure, c'est 13 000 ou 18 000 îles. Il n'y a donc pas une cuisine indonésienne,
non.
Il y en a des dizaines.
Ah, oui.
Alors, des saveurs de partout, le nasi goreng, comme vous dites, c'est le plat national en quelque sorte, mais là aussi il y a autant de recettes de nasi goreng, j'adore dire ça, que pratiquement de famille. On y met, comme vous l'avez dit, à peu près tout ce qu'on veut.
Ouais.
On peut même en faire ici, c'est pas très compliqué.
On fait cuire du riz,
le wok dans le studio, mais avec ça on pourrait y arriver.
Ça y est, on entend, ça grillote.
On fait frire le riz, on rajoute tout ce qu'on a sous la main.
Exactement.
Et de la sauce soja. De la sauce soja sucrée, qui est une particularité
ketchup,
indonésienne.
Ça s'appelle, ouais.
Voilà,
mm-hmm.
Et puis après, des épices. Et
il y a souvent que ça. Il y a des restaurants, vous n'avez que ça, vous n'avez pas le choix.
Non.
Mais si.
Mais ça va pas.
Mais enfin.
Mais vous allez à quel restaurant, Philippe?
Mais moi, je vais au petit restaurant.
Mais je vais
courant,
vous amener dans des endroits où. Non, mais c'est, en fait, ce qui est important aussi dans la cuisine indonésienne, ce sont les épices et puis surtout les sambals.
Et l'Indonésie, chili. C'est aussi l'un des pays de la street food. C'est-à-dire qu'on mange beaucoup dans la rue, contrairement
ouais.
à chez nous. Et là, avec des petits vendeurs ambulants, on l'appelle les warung, c'est ça?
Oui, warung.
Les petits vendeurs de
Pas mal l'accent, Olivier. Oui,
ben, je m'améliore au contact d'Angoune. On trouve des soupes, on trouve des brochettes, on trouve plein de choses.
Non, je pensais aux épices, parce qu'il y a eu toute une histoire incroyable autour de la noix de muscade et du clou de girofle. Il y a eu des batailles entre les Portugais, puis ensuite les Hollandais, les Anglais, pour le monopole de ces épices qui étaient vendues à prix d'or. La noix de muscade, le clou de girofle. Est-ce que c'est encore beaucoup présent dans votre cuisine?
Ah oui, énormément. Et d'ailleurs, le clou de girofle, c'est l'ingrédient dont on met dans les cigarettes indonésiennes qu'on appelle kretek.
Oui.
Et en fait, lorsque vous arrivez en Indonésie...
Dans les cigarettes, oui.
Ah oui? C'est vraiment l'odeur assez prenante. On dirait qu'on est dans un pays des dentistes.
Mais en fait... C'est vrai.
Oui,
C'est l'odeur du clou de girofle.
Et alors moi, je vous apportais un petit quelque chose à non pas à goûter parce que ça va être un petit peu fort, mais à respirer. Est-ce que vous connaissez ce mélange? C'est un mélange d'épices typiquement indonésien, voilà, qu'on appelle le saté.
Qu'est-ce que c'est ça,
alors,
le saté?
Moi, j'adore ça.
Délicieux.
Je peux sentir un peu.
Oui, absolument.
Olivier est venu avec ses petites fioles.
On le trouve sous différentes formes. Ça, c'est de la poudre, mais on peut le trouver liquide.
Oh, Philippe.
Moi, j'aime beaucoup.
Ça sent fort, non?
Mais c'est ça, la vie.
brochette de poulet au saté,
exactement.
C'est divin, ça.
Justement, il faut le mettre avec parcimonie. Mmh. Et alors, c'est un mélange avec du soja, du tamarin, du gingembre, probablement un petit peu de crevettes séché également, de la coriandre moulue. Voilà, c'est tout un mélange d'épices. Et là aussi, il y a des
choses. Mais il faut doser, hein, parce que c'est puissant.
Avec parcimonie dans une sauce ou simplement sur des blancs de volaille.
Le truc, les Français, ils savent pas apprécier.
Non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, c'est vrai qu'en Indonésie, on mange très épicé.
Ouais.
Et ça vous brûle la langue et puis ça vous réveille.
Ouais, ça fait pleurer parfois. Hein.
Oui.
Ou transpirer.
Oui.
Vous êtes très piment, vous aussi?
Ah oui. Oui, j'adore ça. En fait, en Indonésie, il y a autant de piments qu'il y a de variétés de piments qu'il y a de fromages en France.
Oui, mais alors plus ça pique, plus c'est fort, moins on sent la saveur et la finesse des aliments.
Ah ben non, parce qu'en fait, ce sont les purées de piments qui sont mélangées avec des ingrédients comme justement des pâtes de poisson. Ça existe même les purées de piments pour les fruits. Donc, ce qui fait que ça ajoute quelque chose. Vous n'avez pas l'habitude, en plus.
Oui, et puis, on a un rapport au piment qui est très culturel aussi. C'est-à-dire que quand on en mange depuis la toute petite enfance, ou même le bébé dans le ventre de sa maman, il est habitué au goût pimenté. Donc, on n'a pas le même rapport au piquant, évidemment. Et est-ce que vous savez, Angoune, qu'il existe même à Bali un tout petit vignoble? On produit un tout petit peu de vin.
Alors,
il y a un seul producteur de vin dans toute l'Indonésie.
Oui.
Et il est dans les faubourgs de Bali.
Exactement. Mais j'ai dû goûter une fois. Ouais. Mais voilà.
Alors, il y a une particularité, c'est que comme il n'y a pas d'été, d'hiver, d'automne, il y a trois vendanges par an. Mmh. La vigne pousse en permanence. Bon, on ne peut pas dire que ce soit très bon, mais c'est anecdotique.
J'aimais qu'Olivier, vous l'emmenez n'importe où sur la planète, il vous trouvera une bouteille de vin.
Alors, demain, c'est pas sûr. Hein.
C'est phénoménal. Dans un instant, nous verrons comment aller en Indonésie, parce qu'on a vu que c'était plein d'émotions, de saveurs fortes, qu'il y a des forêts profondes, des lézards géants. Mais comment on y va concrètement? Ce sera le boulot de Jean-Bernard Carriette du guide Lonely Planet dans un instant.
16h-18h, et si on partait? Philippe Googler.
Jean-Bernard Carriette du guide Lonely Planet. Vous avez un rôle essentiel, parce qu'on raconte des trucs incroyables sur l'Indonésie. Des fois, ça fait un peu peur. On se demande s'il faut y aller, comment on va faire. Et vous me donnez les clés. Alors, si on rêve d'aller en Indonésie, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, c'est pas très facile, parce qu'entre 13 000 et 17 000 îles, le casting est difficile pour un premier voyage.
Mais oui, Laquelle on prend d'après vous en premier?
Au hasard.
Alors, pas Bali, j'ai peur de me fâcher avec Angoune, mais c'est pas Bali que j'ai envie de vous emmener pour une raison très simple. J'ai envie d'une destination un peu plus confidentielle, un peu plus surprenante.
Où ça?
Lombok, c'est juste à côté.
À côté.
Voilà,
bah
c'est
oui.
juste à côté, mais oui. c'est un petit peu moins connu, un oui. petit peu plus sauvage, un peu plus intimiste. C'est pour
vrai.
Ça que j'ai choisi Lombok, Philippe.
Ah. Alors, Elsa, elle a quel atout cette île?
Alors, les atouts de cette île, à commencer, les plages. Des plages de sable blanc, sachant qu'à Bali, on a quand même plutôt des sables de plage noire. Donc, c'est déjà un petit avantage comparatif.
Ouais.
Et puis, quand je suis arrivé sur
c'est
cette
île... Excusez-moi, je vous interromps, c'est vrai que Bali, tout le monde a l'image d'une île paradisiaque, avec sable blanc, mer turquoise et tout. Il y a très peu de plages comme ça à Bali.
Mais il y en a aussi, par exemple. Ça dépend de quel côté on va.
Ouais.
Parce
bien
qu'en
caché,
fait, côté...
alors.
Oui, exactement. Côté volcanique.
Moi, j'ai trouvé une plage de carte postale quand je suis arrivé à Lombok. J'ai loué un scooter à l'aéroport et j'ai fait le tour de l'île. Et c'est dans le sud de l'île. Elle s'appelle la plage de Maoum. Je pense que vous la connaissez.
Non, je connais que Sangigi.
Ah bah alors, je préfère Maoum parce qu'elle est vraiment sublime. C'est les eaux turquoises. Il n'y a pas beaucoup de courant. On est tranquille. On s'allonge là. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas de parasol. Et juste des petites paillotes. Et on peut acheter sa petite noix de coco et boire l'eau de coco tranquillement.
C'est
et il y a des petites familles qui vendent du poisson grillé. C'est pas du nasi goreng, hein, c'est du poisson grillé. Les pieds dans le sable. Ça, c'est une expérience, un avant-goût du paradis pour moi, Philippe.
Donc, Angoune, vous validez Lombok?
Oui, je valide.
Et vous auriez une autre île à nous conseiller, Angoune?
Alors, il y a Nusa Lembongan aussi, qui est pas loin
Lembongan,
de Bali.
C'est pas loin.
Oui, c'est pas loin.
Tout ça, c'est du pas loin. Si on voulait aller vraiment très loin de Bali.
Mais pourquoi vous voulez... Alors, je vous conseille Raja Ampat. C'est là où on fait du snorkeling.
Ouais,
on
pour,
fait
la des... plongée, pour la plongée, c'est...
Pour la plongée, mais
c'est
super loin.
Ah. Et Komodo avec les lézards géants.
Alors, c'est... moi, je ne suis pas très lézard. Donc, mais à côté de l'île de Komodo, il y a donc justement il y a la plage où le sable est rose.
Alors, il y a
pink.
Aussi... est-ce que vous aimez la randonnée, justement, aussi, en Angoune?
J'ai pas de bonnes chaussures pour ça.
Ça
mais dans l'idée, oui.
Alors, si vous avez cette idée-là à Lombok, moi, je vous conseille l'ascension du Rinjani que j'ai fait avec un guide.
Ah oui, oui,
c'est
oui.
C'est sublime
oui.
parce que, alors effectivement, il faut prévoir 2 jours et 1 nuit. C'est un petit peu engagé physiquement. Mm. Mais on peut se contenter d'aller à 2600 mètres d'altitude sur le rebord du cratère. Et là, on voit ce volcan Rinjani. Et tout en bas, il y a un cratère avec un lac turquoise au fond. Et le team, vous passez la nuit en bivouac dans ce site absolument idyllique. Il y a des singes un peu partout. Vous avez aussi le bruit de la jungle dont on a parlé tout à l'heure. Et au petit matin, on se réveille avec ce lever de soleil, cette lumière chaude du matin qui illumine ce paysage digne d'Avatar. Ça, pour moi, ça reste un souvenir extrêmement marquant. Je vous conseille ça pour votre prochain séjour.
Écoutez, vous m'avez vendu, je vais acheter une nouvelle paire de chaussures spécialement pour ça.
Alors pour les palmes,
pour la plongée, ouais.
Pour les palmes, prenez aussi des palmes, Angoune, pour votre prochain séjour à Lombok. Parce que juste à côté de Lombok, il y a les îles Gili. Vous connaissez aussi.
Ah oui, oui,
alors les îles Gili, c'est le paradis de la plongée. Et j'ai aimé aussi ces sites-là parce qu'il y a un spot de plongée qui a été créé par un sculpteur. Il a fait une sculpture sous-marine qui s'appelle The Nest. C'est à 4 mètres de fond. Il y a 48 sculptures, des moulages en béton neutre qui représentent des couples enlacés. C'est très romantique. Tout ça à 4 mètres de fond. Donc on voit à la fois des poissons et en même temps on nage au milieu d'une sculpture circulaire. C'est vraiment impressionnant. C'est complètement dépaysant. Tout ça à 4 mètres de fond dans une eau complètement cristalline. Pour
ça
faire des belles photos, c'est une super expérience.
Ça fait vraiment envie. Et les îles Gili, c'est pas mal pour faire la fête, non? Si mes renseignements sont bons, Angoune.
En fait, il y a 3 îles Gili. Il y a Gili Prawangan.
Olivier, vous pouvez la refaire, s'il vous plaît. Les îles Gili, c'est pas mal.
Oui, c'est pour faire du Gili-Gili. Oui, en fait, il y a 3 îles Gili. Il y a 3 îles différentes. Et il y a Gili Trawangan, qui est finalement l'île qui est un petit peu plus
développée.
Ouais. Et puis, donc, avec
des grosses fêtes. Hein.
Oui, exactement. Mais c'est une île, justement, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. On se balade à pied, on prend du vélo, et c'est sympa.
Là, je trouve la plus intimiste, et c'est celle que j'ai vraiment eu un coup de cœur, c'est Gili Meno. C'est la plus
Gili
petite.
Meno,
format timbre-poste, hein, Philippe, 500 mètres de long, quelques petites paillotes, des petites auberges à 20 euros la nuit. Franchement, c'est un paradis.
Alors, techniquement, comment on va là-bas?
C'est pas très compliqué, en fait. On prend l'avion pour Bali, justement. Hein. Bali, c'est un petit peu la porte d'entrée, Denpasar. Et on fait un petit saut de puce et on arrive sur l'aéroport de Lombok. Et puis là, ce que je conseille, c'est tout simplement de louer un scooter. C'est le moyen de déplacement le plus pratique pour visiter l'île. Mmh. Voilà.
Parfait, merci beaucoup. Et on espère qu'on pourra y retourner bientôt parce que pour l'instant, c'est encore un peu compliqué.
J'ai une folle envie de plonger, j'en peux plus.
Mais ça va revenir. Et on fait cette émission pour que les rêves se réalisent.
Ah oui.
Merci beaucoup à tous. Merci les amis. Merci Angoune de nous avoir accompagnés.
Merci.
dans ce grand périple, vous avez fait rêver.
Ah, mais vous me faites voyager chez moi.
Un grand périple que nous reprendrons très très bientôt demain sur Europe 1. Angoune, on vous retrouve, vous, bientôt dans vos premiers pas d'actrice dans le téléfilm Coup de foudre à Bangkok, diffusé bientôt sur TF1.
Exactement.
Et puis, en tant qu'enquêtrice dans l'émission Mask Singer également.
Tout à fait.
Sur TF1, vous êtes partout. merci beaucoup. Demain, nous repartons pour d'autres aventures dès 16h sur Europe 1, avec une première heure en France, dans une région que j'adore parce que c'est mon pays. C'est le pays de la montagne douce, de l'herbe verte et de la cancoyotte, la Franche-Comté.
Mmh. Et du vin jaune.
Et du vin jaune, bien sûr, Olivier.
Et du grand froid, Philippe.
Et deuxième heure, une destination spectaculaire, un petit peu comme l'Indonésie, mais en mode glacé. On va perdre quelques degrés puisque je vous emmènerai au Groenland. Merci d'avoir voyagé avec nous sur Europe 1. Et n'oubliez jamais ce que m'a dit un jour un maître de yoga. Il faut continuer à rêver car ce sont les rêves qui gouvernent la volonté.